L'Absolu, un spectacle introspectif dans l'univers de Boris JB de la compagnie Les Choses de Rien, basée dans la région des Hauts-de-France. Boris JB est un performeur et un circassien de renom qui propose jusqu'au 21 octobre une vision de la perception de notre monde et le rapport du mouvement à l'espace par le biais d'un conte cauchemardesque et poétique dans le cadre de la programmation du Tandem. Un silo d'environ 13 mètres de haut vous happe pendant 1h10 où les éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu vous tiennent en haleine tout au long de cette performance. Un spectacle sidérant et époustouflant qui ne vous laisse pas indifférent à l'issue de la représentation. Avant de retrouver le comédien Boris JB pour un entretien, je vous propose les réactions de quelques spectateurs recueillis à l'issue de l'une des représentations.
Bah, je dis que c'est bien, c'est un beau spectacle, c'est marrant quand il fait ses cobracis et puis tout ça, qu'il fait ses tours de quand il se retrouve au ciel dans l'eau. C'est l'eau et le ciel, c'est ça?
Oui, on commence par l'eau.
Par l'eau et après le ciel, et puis après c'est le feu.
Il y a eu la terre, on commençait par l'eau. On descend d'un mollusque de la mer. Donc après il y a eu la terre, le feu pour. Je sais pas vous expliquer comment exactement, mais je trouve ça magnifique.
C'était de la magie, non? Un truc de magique.
C'est une expérience. Ouais. Une expérience visuelle, sensorielle. C'est étonnant.
Vous attendiez justement à ça en venant?
Non, pas du tout. Okay. On s'attendait à. On n'avait pas lu le descriptif du spectacle et ouais, c'est étonnant. C'est une vraie expérience.
Ok.
Un peu noir, mais.
Ben voilà, il y a une histoire quand même. Il y a quelque chose que ça raconte. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous?
C'est pas très positif, mais je reconnais la création. D'un point de vue créatif, c'est super. Après, l'univers ouais, est assez noir quand même.
J'ai envie de dire, c'est plutôt. Enfin, moi, j'ai pas vu une histoire continue. C'est une histoire à trappe, et puis on rentre dans un univers, on rentre dans un autre univers, on sort. Il y a plusieurs morts, plusieurs petites. Enfin, la mort qui est présente. Hein. Mm-hmm. Et puis bon, la performance. Hein, c'est une belle performance.
Alors les réactions. C'est ce qu'on se dit. À chaque fois qu'on a vu un spectacle, on se dit une prochaine fois, je serai plus étonné. Et finalement, on est toujours étonné parce que. Ben c'est stupéfiant. Et puis ce qu'on se disait, c'est avoir une idée, c'est chouette, hein, mais réussir à la mettre en application comme ça, nous proposer une telle performance, c'est génial. Le sol est souple, il devient dur, l'environnement musical aussi, sonore. Tout l'espace est occupé, voilà.
Très onirique aussi, donc. On se laisse bercer.
Alors, des gens qui me parlaient du rapport avec le feu, l'eau, etc. Vous avez perçu ça ?
Les éléments. Les éléments, oui. Puis le. Comment ? Ouais, c'est naître et puis disparaître. Enfin, il y a plein de sensations. Ouais, c'est assez étrange et en même temps,
on se laisse. Disparaître pour mieux renaître.
Ouais. Okay. On s'est laissé surprendre.
On retrouve à présent le comédien Boris JB en interview pour évoquer entre autres le travail de sa compagnie, son parcours, et il nous livre les grandes lignes sans dévoiler le mystère qui rôde autour de l'Absolu pour les prochains spectateurs qui auront la chance d'assister à l'une des représentations. Entretien agrémenté de quelques extraits sonores du spectacle. Boris JB, bonjour.
Bonjour.
D'abord, vous faites partie de la compagnie Les Choses de Rien. On peut commencer par ça. Vous pouvez nous parler un petit peu de cette compagnie, raconter un petit peu son histoire.
Alors, la compagnie Les Choses de Rien a été créée en 2004. Donc voilà, ça fait 18 ans. C'est une compagnie de spectacle de cirque contemporain qui est basée dans les Hauts-de-France, sur la commune de Noailles. Voilà, on a aménagé. Un lieu qui était déjà dédié aux arts du cirque il y a 3 ans, et sur lequel on développe aussi des actions de résidence d'artistes en création sur le lieu de la Fabrique des Possibles. Et donc la compagnie a ses activités ici, maintenant, et développe depuis donc 18 ans des créations, soit pour l'espace public, soit pour les salles de théâtre, soit pour... on a une performance même dans l'eau, et puis aussi des écritures sous chapiteau, avec des rapports scéniques, donc un rapport qui nous met en relation avec le public assez particulier, dans la mesure où on prend le chapiteau, non pas comme un espace de représentation uniquement, mais aussi comme un espace immersif, comme si on rentrait dans le décor. Voilà, moi j'aime, je suis très attaché au chapiteau, à la porosité de la toile qui permet de rencontrer le public, pas seulement des abonnés qui ont l'habitude d'aller, d'avoir une pratique culturelle, mais aussi des curieux qui d'un coup se retrouvent à avoir quelque chose qui occupe leur espace de stationnement en plein centre-ville, ou des gens qui ne viendront peut-être pas voir le spectacle, mais qui se disent « Ah, il se passe quelque chose dans ma ville », et ça déjà c'est important. Voilà, donc je trouve ça important de provoquer cette rencontre-là avec le public en rentrant dans son espace à lui. Voilà, on vient chez vous et on vous invite chez nous. Cette chose-là, voilà, je trouve elle très, très intéressante. On n'est pas dans les tours d'ivoire culturelles d'un théâtre où on ne sait jamais ce qui se passe dedans. Là, on propose une scénographie qui est visible de l'extérieur, dans laquelle on rentre, qui est un espace à métamorphose, parce que quand on rentre dans ce chapiteau de tôle qui fait 13 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, et ben à l'intérieur, c'est tout autre chose. C'est plutôt une sorte de tribunal à 4 étages avec des escaliers à double lisse, comme Léonard de Vinci avait pu faire dans le château de Chambord. Voilà, donc c'est lui un peu l'inventeur de ces escaliers à double lisse. Et du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est d'apporter un petit peu une forme de boîte à magie dans le rapport au spectateur. Ce que j'explore ces derniers temps, c'est un attachement au rapport scénique qu'il y avait dans les cirques, donc un rapport circulaire où il n'y a pas de quatrième mur comme on... qui renvoie un peu aux conventions de la télé, du cinéma, où voilà, on est dans un rapport frontal à ce qui se passe, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus immersif, où les spectateurs font aussi partie du décor. Enfin, en tout cas, il y a une sorte de... La vibration n'est pas la même. On fait cœur et en même temps, on est dans cette enceinte, ce qui fait aussi fausse aux gladiateurs, il faut le rappeler.
C'est ça que j'avais pensé quand j'ai vu le spectacle hier.
Voilà. Et en même temps, quand tout est à vue, on perd de la magie. Donc j'avais envie de retrouver cette boîte à magie du théâtre. Et du coup, plutôt que de mettre une grande roue comme il y a sur la grande place, où on mettrait la piste à la verticale, moi j'ai préféré renverser le point de vue du spectateur plutôt et faire qu'il nous regarde du dessus. Donc le quatrième mur finalement est renvoyé au plafond et on inverse le point de vue. Et du coup, on se retrouve avec un rapport circulaire tout en ayant une boîte à magie, une sorte de puits sans fond, dans lequel je ne vous révélerai pas tous les mystères qu'il peut y avoir dans le spectacle. Mais...
Et justement, ce silo, hein, puisque voilà, c'est une forme de silo. Alors, est-ce que c'est un silo traditionnel ou c'est un silo qui a été reconstruit à l'identique ?
Oui, alors quand on part dans ce genre de scénographie, on espère aussi, moi aussi j'aurais bien espéré trouver... un silo traditionnel qui me permette d'accueillir 100 spectateurs sur 4 étages, mais l'idée est toujours plus simpliste que la réalité. Et plus on rentre dans la concrétude d'un projet, plus on rentre dans le processus, plus on s'aperçoit qu'en fait, ça va être compliqué à commander à un marchand de blé ou un constructeur de silo, mais qu'il va finir... Voilà, on va pas juste pouvoir recouvrir un échafaudage de tôle, mais finalement non, on a dû tout faire nous-mêmes. Une petite équipe au début, à la conception, au plan, aux maquettes, au calcul, et puis après on a été une vingtaine, on était une douzaine sur 8 mois de chantier en rotation, et on a fini par faire cintrer les tôles au diamètre qu'on voulait par un fabricant de silos, mais autrement tout le reste a été fabriqué de nos mains.
Alors, ce spectacle, il est très physique. Est-ce que vous êtes seul en scène ou il y a un turnover avec d'autres comédiens qui évoluent également, ou c'est vous seul qui faites les spectacles tous les soirs ?
Alors, donc c'est un solo, mais accompagné, parce que je suis accompagné de deux régisseurs plateaux qui font des manipulations, qui font des doublures à des moments. Voilà. Ce spectacle-là, comme on a la chance de beaucoup le jouer, on l'a joué 165 fois.
Il existe depuis 5 ans, c'est ça ?
Oui. Il a été créé fin 2017. Et du coup, je ne pourrais pas jouer toutes ces représentations. Donc, j'ai fini, suite à un accident qui n'a rien à voir avec le spectacle, j'ai fini par me faire remplacer. Et avec les 2 ans d'annulation Covid qui ont dû se reporter sur cette saison-ci, voilà, à Arras, on devait jouer. On a eu 2 reports avant de jouer. Maintenant, on devait jouer il y a 1 an, il y a 2 ans. Et finalement, tout s'est reporté. Donc, on s'est retrouvé à jouer 3 saisons en une seule. C'était très intense. Et donc, on était bien heureux d'avoir restructuré la compagnie autour de ce spectacle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a 3 équipes qui tournent. Et on se croise. Du coup, on n'est jamais les mêmes constellations. Et on se croise aussi avec mes remplaçants pour que les choses et les partitions, la partition du spectacle aura un autre grain, une autre couleur avec en fonction de qui l'interprète, mais moi j'aime beaucoup aussi les autres versions. C'est vraiment du papier à musique, hein, c'est vraiment la partition est exactement la même. Après c'est nos états de présence qui diffèrent, mais c'est ça aussi qui fait la richesse des registres.
Alors, vous interrogez le public sur les éléments, le feu, l'eau, l'air, et en même temps, il y a une sorte de mise en abîme avec le spectateur qui interroge aussi les perceptions qu'on reçoit justement et les sensations qu'on peut ressentir tout au long du spectacle, qu'on regarde en l'air, qu'on regarde en bas ou sur les côtés. Pouvez-nous dire quelques mots un petit peu sur cette mise en scène, son histoire tout simplement ?
Je suis parti sur l'idée d'une quête d'absolu. Qu'est-ce que c'est que l'absolu et c'est quelque chose qu'on n'atteint pas, donc voilà. Et dans l'idée que cette personne, cet archétype, ce personnage, je sais pas, cette silhouette, cherche à ses instants de vérité et finalement cherche à incarner les éléments pour comprendre ces instants de vérité. Je l'ai 4 éléments un par un, parce qu'il y a aussi la terre dans laquelle je vais plonger dans 8 mètres cubes me noyer d'une matière qui ressemble à du goudron, une mer de goudron comme ça. Et en même temps, je voulais absolument pas être dans une narration. Pour moi, c'était plus important de s'accrocher. Alors moi, je me fais ma narration à moi, je veux absolument pas que les gens la comprennent, mais c'est hyper important qu'elle soit fondée pour que je puisse vraiment la vivre chaque soir, voilà, sans chercher à mimer ou à illustrer quoi que ce soit. C'est plutôt... je sais pas, par exemple, je me fais un procès à moi-même, beaucoup d'illusions, mais il y a aussi beaucoup d'allusions au mythe de Narcisse, voilà, avec ce miroir où j'avais envie de... Je trouve que dans ces instincts de pulsion de survie, de pulsion de petite mort, comme ça, il y a souvent un rapport narcissique qui peut revenir, et puis je trouve ça intéressant.
Et une renaissance, une forme de renaissance aussi.
Oui. Donc il y a toute une dramaturgie, en gros, sur la verticalité, avec des renaissances et des disparitions à soi-même voilà. Et c'est ces allers-retours-là qui font qu'on existe ou pas et que ces pulsions de survie qui font remonter ces histoires de narcissisme, et je trouve ça intéressant de l'amener où je vois de plus en plus de gens en quête ou en problème de reconnaissance, de savoir s'ils existent vraiment. Quand je vois que tout le monde a besoin de se faire des selfies ou de se mettre sur les réseaux, je pense qu'on est dans une forme de perte de soi-même, donc je trouve ça intéressant de le questionner poétiquement sans mettre un téléphone sur scène, bien sûr. Voilà, donc il y a des choses comme ça qui font sens, qui sont de l'ordre, on cherche que ça soit un peu universel quand même, qu'on se raconte pas juste notre truc dans notre tête et que les gens ils ne pigent rien, ça serait dommage. Mais sans trop en dire, parce que on n'est pas ni à l'endroit de l'intelligible, on fait pas du théâtre, mais on est à l'endroit de l'incroyable, du cirque, de la magie, sans faire de cirque. Il n'y a pas un seul agrès de cirque sur scène, mais à l'essence de ça. Alors c'est quoi le cirque? Je sais pas, chacun se fait sa définition et il n'y a personne qui aura la vérité. Moi, ce qui me plaît, ouais, c'est vrai, c'est ce rapport à se dire on va voir des trucs incroyables. Mais moi, si j'ai envie de vous montrer des trucs incroyables, ce sera ce qui est incroyable pour moi, pas forcément pour vous. J'ai pas envie de vous montrer ce qui est incroyable pour vous parce que ça m'intéressera pas forcément. Donc c'est de toute façon des quêtes intimes, c'est des conquêtes intimes qu'on a envie de vous partager. Alors si c'est des carnets de voyage ou si c'est des... je sais pas, souvent on voit souvent un artiste de cirque avec un objet qui va faire le fruit de tous les trucs incroyables qu'il arrive à faire avec cet objet, ou avec cet éléphant, ou avec cette personne qui le porte. Voilà, le corps est aussi un objet. Donc oui, moi j'ai envie de vous amener dans des surfroides, dans des peurs, comme quand on se jette dans le vide et qu'on voit quelqu'un se jeter ou marcher sur un fil et qu'il puisse tomber. Moi je vais pas marcher sur un fil malheureusement pour vous, mais je vais travailler d'autres choses vous direz que je prends autant de risques, moi j'ai l'impression d'en prendre moins, mais je trouve qu'il travaille plus sur l'essence de ces questions-là sans me mettre à prendre des risques. De la même manière, je trouve qu'il y a quelque chose de très sadomaso dans le cirque. On grimpe sur des cordes, on se fait des nœuds, ça brûle. Faut pas, surtout pas le montrer, quand on marche sur un fil, ça fait extrêmement mal aux pieds. Mmh. Et du coup, moi je me dis, bah voilà, cette relation-là, on a l'impression que quand on se fait mal, on gagne quelque chose. Jusqu'où est-ce qu'on est obligé de se malmener pour faire des trucs incroyables, ou en tout cas en avoir la sensation, je sais pas. Mais en tout cas, le spectateur, lui, il aime bien voir ça, parce que par empathie, il a l'impression de faire des trucs incroyables, et en même temps de se malmener, et quelque part, il est quand même bien confortablement assis dans son siège, et il en a juste les bénéfices.
On évoquait Narcisse, hein, et puis moi j'ai remarqué, alors, dans l'évolution du personnage, on a l'impression qu'on est à la fois angoissé en tant que spectateur, mais aussi sidéré. Il y a un état de sidération qui se met en place. On se demande ce qui va se passer, on cherche éventuellement ce qui peut arriver ou ce qui ne va pas arriver. Je pensais aussi au double. Notamment, alors la ref est peut-être un peu, oui, exagérée. Je pensais un peu au double, le Joker, Jack Napier, qui se cherche lui-même et en même temps, il y a un côté schizophrène dans la manière dont des fois le personnage au sein du silo évolue. Je sais pas si.
Oui, il y a un double. Après, chacun le lit comme il veut. De toute façon, quand on est dans une. Dans ce chemin de quête, on est dans une discussion avec soi-même. Donc. Pour discuter avec soi-même, c'est bien qu'il y ait une forme de schizophrénie qui opère. Mais comme c'est la petite voix, c'est le Jiminy Cricket, c'est celui qui dit « Demain, tu vas te lever tôt et tu vas aller bosser. » On discute tous avec nous-mêmes de manière plus ou moins... parce qu'on n'a pas besoin de mettre quelqu'un qui nous ressemble, qui discute avec nous-mêmes. Mais moi, j'avais envie de le faire figurer par une présence qui soit plus celle d'un corbeau. Alors, pendant la création, j'avais dressé un corbeau qui a fini par se faire manger par une fouine, mais qui reste présent finalement pendant le spectacle par sonorement, par des bruitages de corbeaux. Il y a des sensations à des moments, alors, c'est une enclume qui vole, mais finalement c'est un corbeau, des chutes de plumes. Voilà, donc. Et je voulais aussi, pour moi, faire un solo sur scène, c'est aussi se faire un procès à soi-même. C'est quand même, on a toujours des choses. À débattre, et je trouvais ça intéressant aussi d'amener ce rapport-là de jugement de soi-même et d'alter ego là-dedans. Donc oui, et puis il y a ce rapport au miroir qui renvoie aussi au double, à ne pas accepter ou à refuser le double ou à vouloir passer à autre chose parce que c'est peut-être plus la solution. Du coup, de finir cette quête les yeux bandés pour être sur ses propres sensations et de se dire que toutes ces illusions sont fausses et que c'est peut-être juste par la... Il n'y a peut-être que les sensations qui sont vraies. Et que tant que nos sensations sont vraies, c'est ce qu'on fait après. C'est comme des fois on dit le rêve que j'ai fait n'était pas vrai, mais les sensations que j'ai vécues dans ce rêve étaient vraies. Donc c'était...
On n'est pas très loin du rêve et un peu du cauchemar aussi, hein, en regardant le spectacle.
Oui, moi j'ai souvent des gens qui me disent « Ah, vous nous faites plonger en apnée dans une espèce de cauchemar et on en sort d'un rêve idyllique. » Oui, il y a un petit peu de ça.
Et alors, côté technique, parce que techniquement, la scénographie a une place très importante, tout est millimétré, la lumière également, le son surtout, on parlera après du son, mais les lumières, sans dévoiler évidemment les petits mystères techniques, parce que c'est ça aussi qui nous met justement dans cette position de sidéré en fait quand on regarde. On a même l'impression qu'à un moment donné, vous mesurez plus de 3,50 m avec une espèce de mise en abîme des lumières, quand notamment les mains sortent, ou vous revenez sur le devant du silo. Comment ça se met en place tout ça? Parce que j'imagine que l'équipe technique, elle est bien rodée, il n'y a pas le droit à l'erreur.
Alors on est extrêmement calé comme sur une partition en musique et on est tous au service. C'est vrai que le rapport que je mets sur dans le spectacle, c'est qu'on est tous au service de ce spectacle-là, des sensations, tous au service des sensations des spectateurs. Et quelque part, on a cherché à tisser un fil infrarouge qui serait, c'est pas le fil narratif, c'est le fil sensible de là où se sent le spectateur dans ce rapport où soit on le brosse dans le sens du poil, soit on va le mettre dans une confort, dans une relation inconfortable, ou l'amener dans les vertiges. Et on joue aussi de ça, parce que si on tire tout le temps sur la corde, au même endroit, bah, du coup on le perd. Donc c'est l'amener en mouvement aussi, c'est comment le rendre mobile. C'est qu'on va chorégraphier aussi ses mouvements à lui, ses mouvements internes.
Vous êtes un enfant de la balle, hein, puisque vous avez commencé, je pense, avec le Cirque Zampano. Quel souvenir vous en gardez de ses débuts?
Waouh. Alors c'était le Cirque Zampanos qui continue. Hein, on est monté en 96 la compagnie avec mes parents quand j'étais adolescent. Bah, on a commencé dans la rue avec des spectacles déambulatoires ou des spectacles aériens. Bah, c'est ça qui était intéressant et que quelque part je développe autrement que quelqu'un qui aurait fait une école. Parce que j'ai commencé à 10 ans, à 14 ans j'étais professionnel de la bidouille et de la bricole, quoi. Donc on fabriquait nos choses, c'était pas d'arriver à avoir un niveau qui était important, mais c'était plutôt la proposition poétique, artistique qu'on faisait, et tout était bon pour amener notre idée, ce qu'on avait envie de partager avec le spectateur. Enfin, les valeurs étaient à cet endroit-là, plutôt que sur des références techniques ou quoi. Enfin, quelque part, ce que je veux dire, c'est que le son, la lumière, plus on fait que c'est pas du son, et plus on fait que c'est pas de la lumière, et plus on fait que nous, ce qu'on fait, c'est pas de la présence d'acteurs ou de danseurs ou de marionnettes, tout ça, mais que c'est une seule chose, et qu'on n'est pas dans l'auberge espagnole de on met plein d'ingrédients et ça va être bon, mais on va plutôt fabriquer quelque chose de particulier avec tout. C'est pas de la maîtrise, c'est pas de l'expérience peut-être, et de la sensibilisation à toutes ces choses-là qui fait qu'on est disponible à ça, et du coup on va pouvoir l'amener dans un endroit qui nous semble assez particulier, assez chouette et identitaire pour avoir envie de le partager, quoi.
Eh ben, Boris Gibet, merci beaucoup, et puis on vous souhaite encore plein de bonnes représentations, et puis on espère que vous allez encore subjuguer les spectateurs pendant ces prochains jours. Merci.
Merci, merci. Et donc, on joue jusqu'à la fin de la semaine. Ça affiche complet, mais il y a toujours 10 places à l'entrée du silo. Donc, si vous êtes motivé, n'hésitez pas à venir à la dernière minute. Il y a une liste d'attente et généralement, tout le monde rentre.
L'absolu de Boris Gibet de la compagnie Les Choses de Rien, proposé dans le cadre de la programmation du Tandem, est visible jusqu'au 21 octobre sur la Grand Place d'Arras. Les prochaines représentations ont lieu demain, mardi 18 octobre à 19h, mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 octobre à 20h30.